IDFM Radio, 98 FM.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France, à écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, et sur notre appli Android. Jacqueline Voraz avec Nicolas à la technique. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, mardi 28 avril 2026, dans l'économie en direct, on va explorer un sujet essentiel mais souvent sous-estimé, la force du collectif dans la réussite entrepreneuriale. Dans un contexte économique où tout va vite, où les chefs d'entreprise doivent être à la fois experts, gestionnaires, communicants et stratèges, une question se pose, peut-on encore réussir seul ? Et c'est précisément là que des réseaux comme le Parisis Business prennent tout leur sens. Plus qu'un simple club d'affaires, c'est un véritable accélérateur de connexions, de compétences et d'opportunités où les entrepreneurs ne viennent pas seulement chercher du business, mais aussi des solutions, du soutien et parfois même une vision différente de leur propre métier. Et pour en parler concrètement, nous recevons aujourd'hui 4 dirigeants au parcours très différent, mais réunis par cette même dynamique locale et entrepreneuriale. Bonjour Michael Baker.
Good morning.
Gérant de Taverny Autoservice Midas, merci de revenir dans cette émission, ça me fait très plaisir.
Ben moi aussi.
À vos côtés, Hervé Zitoun, directeur technique et cofondateur R2G Group, bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Gaëlle Chavez, fondatrice et gérante d'entreprise Co-Assist. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Et Sébastien Bonner, fondateur de Manta, dont vous êtes également le PDG. Bonjour Sébastien.
Bonjour Jacqueline.
Et nous avons également Julie, qui est l'assistante de Hervé, c'est bien ça ?
C'est bonjour bien Julie. Ça, enchantée.
Alors bienvenue et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct sur IDFM Radio.
IDFM Radio, 98 FM.
Avant de commencer, je vous propose de rejoindre via le téléphone notre analyste géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, pour sa chronique « Décryptons le monde ». Bonjour Gérard, merci d'être au rendez-vous.
Bonjour Jacqueline, je salue celles et ceux qui nous écoutent et bien sûr tous vos invités.
Eh bien, merci Gérard. On a IDFM est toujours très fier de pouvoir compter sur vos interventions, tout comme France Info, CNews et Europe 1, où je sais que vous êtes très demandé en ce moment. Et compte tenu de l'actualité, alors comment ne pas parler du Proche-Orient et d'un pays proche de notre cœur, le Liban ? Votre rubrique s'intitule aujourd'hui « Assistons-nous à la fin du cauchemar libanais », un titre qui bien sûr aiguise notre curiosité. Et avant de développer, peut-être pouvez-vous nous rappeler pourquoi et comment le Liban se trouve-t-il depuis si longtemps dans cette situation de guerre ?
Excellente suggestion, Jacqueline. Le Liban est entré dans la tourmente à la fin des années 60. La première rupture intérieure a débuté avec l'arrivée massive de réfugiés palestiniens sur son territoire suite à la guerre des six jours en 1967 entre Israël et les pays arabes. Les camps de réfugiés seront placés sous l'autorité de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui est chassée de Jordanie. L'État libanais perdait ainsi une autorité sur une partie de son territoire. Il s'en est suivi à partir de 1975 une guerre civile entre milices chrétiennes libanaises et forces palestiniennes pro-arabes progressistes. La Syrie craignant un succès palestinien et une très probable réaction israélienne a envahi le Liban en 1976. Deuxième rupture intérieure. Elle ne retirera ses troupes qu'en 2005, mais entre-temps, l'Iran a commencé dès 1982 la création du Hezbollah, mouvement militarisé de chiites libanais, financé, armé, structuré par Téhéran et qui fait allégeance au guide suprême iranien. Troisième rupture intérieure, amplifiée par les interventions israéliennes répondant aux attaques du territoire israélien par le Hezbollah. Terrible parcours de presque 60 années de lutte intérieure pour un pays qui fut surnommé la Suisse du Moyen-Orient.
Oui, après un tel chaos pendant ces 60 ans, qu'est-ce qui nous permettrait d'envisager la possible fin de ce cauchemar ?
Eh bien, Jacqueline, voyez-vous, un lent processus en plusieurs étapes s'est ébauché sans que l'on anticipe. À partir du 7 octobre 2023, puis il y a eu une accélération fin 2024 et une autre étape en ce début d'année. Nous avons donc eu en face de nous un processus séquencé centré sur le repli militaire et politique de la milice Hezbollah.
Oui, vous faites référence au 7 octobre 2023, mais cette date est celle de la sanglante attaque du Hamas contre Israël. J'avoue que je comprends pas bien votre raisonnement, Gérard, et nos auditeurs probablement aussi devant cette explication qui ne fait pas référence au Liban.
Je ne suis pas surpris par votre réaction très très logique, mais vous vous souvenez très certainement, Jacqueline, de la célèbre formule du général de Gaulle faisant référence à l'Orient compliqué. Mais je vais très rapidement éclaircir cette situation. L'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, lancée à l'initiative de Téhéran, avait pour objectif par la guerre de bloquer la progression des accords de paix dits d'Abraham au Moyen-Orient. La République d'Iran a donc donné aussi l'ordre au Hezbollah, milice libanaise, d'attaquer Israël. Le gouvernement israélien a alors décidé de mettre en œuvre une stratégie globale de réplique en deux volets. D'abord, contre les milices Hamas et Hezbollah, première étape, puis directement contre la République islamique d'Iran. Vous vous souvenez de la première attaque dite des beepers et des walkie-talkie contre les cadres du Hezbollah au Liban en septembre 2024?
Oui,
et de l'élimination du secrétaire général du mouvement, Nasrallah, en poste depuis 30 ans. Intervinrent ensuite les bombardements contre les installations militaires et les caches d'armes du Hezbollah. Un accord de cessez-le-feu fut acté en 2024. La destruction systématique du Hezbollah avait commencé. Le Liban a pu élire son président, dont le Hezbollah bloquait le scrutin, et les premières opérations de son désarmement ont pu commencer. Le premier acte de la renaissance du Liban venait d'avoir lieu.
Donc ce qui veut naturellement dire qu'un deuxième va suivre.
Exactement. L'Iran, bombardé par Israël et les États-Unis, a demandé au Hezbollah de reprendre ses frappes sur Israël cette année. L'armée israélienne a donc repris ses frappes contre la milice libanaise chiite, continuant à réduire ses capacités. Les États-Unis ont alors obtenu d'Israël un cessez-le-feu et des discussions directes entre Beyrouth et Tel Aviv qui n'avaient jamais eu lieu depuis 40 ans. L'objectif est d'aboutir enfin à un désarmement total du Hezbollah. De plus, les 6 semaines de frappe sur l'Iran diminuent fortement l'aide que les Iraniens peuvent apporter à leurs alliés. La situation continue de s'éclaircir pour le Liban, d'autant que son voisin syrien, ancien allié de Téhéran, s'est engagé dans des négociations avec Israël.
Oui, là on voit mieux, on commence à comprendre votre raisonnable optimisme. Et auriez-vous d'autres nouvelles aussi positives ?
Puisque vous le demandez, eh bien, je vais vous dire que la France a toujours apporté au Liban un soutien total diplomatique et aussi militaire en envoyant des soldats donc dans la force de la FINUL et aussi son aide économique. Le dernier sommet européen réuni à Chypre, à la frontière de la zone de conflit, a permis à tous les dirigeants européens d'accueillir les présidents des pays voisins, Égypte, Syrie et Liban. Une première, la France a œuvré pour cet événement symbolique et politique du retour d'un nouveau Liban sur la scène internationale en parallèle des implications américaines.
Donc vous confirmez que le cauchemar libanais devrait toucher à sa fin ?
Oui, il y a tout lieu d'être raisonnablement optimiste, car le Hezbollah, né par la volonté de Téhéran et ses aides financières et militaires, voit une république islamique de plus en plus en difficulté économique et politique interne. La population est soumise à la pire crise sociale qu'elle ait connue. La logique de cette situation devrait aboutir à la chute du régime par une ultime révolte interne que la forte présence militaire américano-israélienne devrait faciliter et accompagner. Si la République islamique s'écroule, le Hezbollah se verra privé de ses ressources iraniennes vitales. Son désarmement et sa chute militaire et politique ne seront plus alors qu'une question de temps. La lumière libanaise est au bout du tunnel.
Merci Gérard. On peut dire que votre analyse est plutôt vivifiante. Hein. Vous nous faites prendre conscience d'une véritable volonté politique et militaire de réduction du Hezbollah au Liban et de la possibilité qu'il soit coupé de ses ressources iraniennes. La clé de la liberté retrouvée du Liban est donc effectivement à ce prix. Merci infiniment de toujours nous apporter cette note positive hein, dans vos chroniques, Gérard. C'est ainsi qu'elle se termine, hein, Décryptons le monde. Et je rappelle à nos auditrices et auditeurs que vous pouvez retrouver tous les écrits et interventions médias de Gérard Vespierre sur son site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement y est gratuit. À bientôt Gérard pour une nouvelle chronique.
Merci Jacqueline et très bonne émission.
Merci, à bientôt. Allez, on fait une pause et on va écouter Tal et le sens de la vie.
J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes yeux et je sors de l'ombre, je sais ce que je veux. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. De sens en contre-sens, on se perd toujours. Quand on ne fait pas les choses avec un peu d'amour, c'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Chemin de nos rêves, et quand on y croit, un nouveau jour se lève. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, je reçois Michael Becker, gérant de Tavernier Autoservice Midas, Hervé Zitoun, directeur technique et cofondateur de R2G Group, Gaëlle Chavez, fondatrice et gérante de l'entreprise Co-Assist et Sébastien Bonner, fondateur et PDG de l'entreprise Manta. Et puis Julie qui est avec nous, assistante de Hervé Zitoun. Alors, c'est toujours un plaisir de recevoir ceux qui font vivre les réseaux économiques de notre territoire. Et tout de suite, on vous retrouve, Mike Becker, déjà venu à notre micro. Et vous revenez peut-être aujourd'hui plus en tant qu'administrateur et trésorier du Paresis Business, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Je reviens aussi avec plaisir pour un peu parler de mon activité et de l'économie en général.
Oui.
Comme on a entendu, le monde est, il est très mouvementé actuellement. Et moi, j'ai juste une réflexion déjà par rapport à ça, c'est qu'on a de la chance de vivre en France et d'être dans un pays qui est stable, où il y a encore une démocratie. Les choses sont loin d'être parfaites, mais parfois c'est bien de le dire et de se le dire que vraiment on a de la chance de vivre en France.
Oui, vous avez raison de le rappeler, d'être surtout dans une démocratie, hein, c'est certain. Oui. Alors, vous, Mike, vous êtes de formation en expertise comptable. La dernière fois, j'avais dit que vous aviez mal tourné en devenant gérant d'une franchise Midas. Mais finalement, c'est pas du tout votre sentiment.
Du tout. Premièrement, parce qu'il faut jamais avoir de regrets dans la vie. Deuxièmement, parce que d'être franchisé Midas, c'est une responsabilité, mais aussi c'est une chance. C'est un réseau dynamique auquel j'appartiens et auquel je suis fier. Et deuxièmement, ça m'a permis de modifier ma façon de vivre et d'être très présent quand mes enfants étaient jeunes. Je pouvais les emmener à l'école le matin, les récupérer le soir, parce que au lieu de voyager beaucoup ou d'être loin de mon lieu de domicile, j'étais à 5 km de mon lieu de travail et j'avais une certaine souplesse dans mon emploi du temps. Donc ça, c'est aussi une chance quand on est entrepreneur et quand on est à son compte et quand on choisit une branche, un métier qu'on aime.
C'est clair. Alors, nous disions aussi la dernière fois que le secteur automobile traverse une véritable révolution, hein, avec l'électrique. Avec ces événements-là dont on a parlé avec Gérard Vespierre, l'énergie est complètement... toutes les cartes sont rebattues. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette révolution électrique ?
Alors, déjà, je vais répondre un petit peu par rapport aux constructeurs européens qui ont du mal à suivre le rythme de la Chine au niveau des développements et des productions de voitures. Ça, c'est un vrai souci au niveau des constructeurs eux-mêmes, au niveau des emplois que ça engendre. Donc, il y a du souci à se faire à ce niveau-là. En ce qui concerne une enseigne comme Midas, nous, on est un peu en bout de chaîne. On récupère les voitures après 2, 3 ans, 4 ans. Donc, on a le temps de voir venir les choses. Mais effectivement, le modèle économique des garages et des opérateurs comme Midas va changer. Il va falloir basculer vers l'électrique, faire moins d'intervention au niveau des moteurs thermiques. Ça va pas se terminer soudainement. Ça va être progressif. Mais il faut prévoir l'avenir et savoir que dans 30 ans... Midas tel qu'il est n'existera plus, ça sera autre chose.
Oui, ce sera différent. Il faudra trouver des collaborateurs qui sont à même de pouvoir réparer les voitures électriques.
Les voitures, mais aussi la mobilité, c'est les trottinettes, c'est les scooters, c'est pas que les voitures. Et donc ça aussi, ça va être un changement dans la stratégie de Midas qui est déjà commencé au niveau des réflexions de Midas France.
Vous occupez de trottinettes
Non, pas pour l'instant. Étant en banlieue, on n'est pas sollicité pour ce type de prestation. Par contre, les Midas Paris Intramuros sont sollicités pour ce type d'intervention. Et il existe déjà un magasin qui fait que ça.
D'accord.
À Paris.
Très bien. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le Paresis Business, hein, un vrai lieu d'échange. Un mot sur ce club, Mike?
Vous allez voir que c'est un club qui est très hétérogène au niveau des types d'entreprises qui y sont. Aujourd'hui, on va être plutôt dans du B2B. Donc ça, c'est ça a la particularité que recommander ce type d'entreprise, c'est moins évident. Moi qui vois beaucoup de clients en B2C, c'est pas tous les jours que je peux recommander quelqu'un qui veut faire de la vidéo dans un bureau, ou quelqu'un qui veut faire un système de téléphonie, ou quelqu'un qui a besoin d'aide administrative.
Bien sûr.
Mais c'est mon rôle, dès que j'entends parler, que j'en parle aux autres. Donc vous allez voir, on est vraiment tous différents, personnalités et aussi type de business.
Oui, j'ai déjà constaté. Hein, voilà. Depuis, ça va être notre quatrième émission déjà.
Ouais,
donc,
donc
on dit souvent qu'un réseau vaut par celles et ceux qui le composent. Vous en êtes un bon exemple, Mike?
Alors, je peux pas le dire moi-même parce que c'est aux autres de le dire. Tout ce que je sais, c'est que pour qu'un réseau marche, il faut faire des efforts. Il faut pas s'y donner à 50%. Et puis, ouais, moi j'y crois. On fait des choses pour le groupe parce que on aime le groupe et on a envie de s'entendre non seulement au niveau du business, mais aussi en tant que personne.
Bien sûr. Vous êtes combien aujourd'hui à...
Nous sommes 26.
26. Vous avez, je crois que vous avez un plafond quand même. Vous ne souhaitez pas devenir trop gros.
Oui, le plafond, c'est entre 30 et 35. Mmh. Pour des raisons très pratico-pratiques, c'est qu'en une réunion d'une heure toutes les semaines, on peut pas faire intervenir trop de personnes à la fois. Sinon, les réunions vont soit être trop longues ou le message de chacun va être dilué.
Mmh.
Donc, voilà.
Merci Michael. Alors je dis Mike ou Michael?
Qu'est-ce que les gens m'appellent surtout Mike.
Mike,
mais
donc,
j'aime bien mon prénom Michael aussi.
Alors bon, je vais vous appeler Mike.
C'est pas Mick en tout cas.
Ça va. Ok, c'est clair. Merci à vous. Merci pour votre accompagnement ce matin. Mais je pense que vous aurez l'occasion de revenir dans l'interview.
Si les autres me le permettent.
écoutez. Ce serait démentir la bonne humeur et la bienveillance du Parisis Business, c'était pas le cas. Allez, on fait une deuxième pause et puis on écoute Laurent Voulzy et les filles d'avril, obligées de passer ce titre avant la fin du mois d'avril.
C'est une fille d'avril, pauvre de moi, une fille de...
Mais elle...
C'est une fille d'Afrique, pauvre de moi, une fille difficile. Elle ne veut pas découvrir la fille, tout ce qu'elle a, ni son cœur, ni son corps. C'est une fille d'Afrique, pauvre de moi, une fille difficile. Elle ne veut pas découvrir la fille, tout ce qu'elle a, ni son cœur.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
C'est l'économie en direct et ce matin j'accueille plusieurs membres du Parisis Business. Michael Baker, gérant Taverny Autoservice Midas. Hervé Zitoun, directeur technique et cofondateur R2G Group. Gaëlle Chavez, fondatrice et gérante de l'entreprise Coassist. Et Sébastien Bonner, fondateur et PDG de l'entreprise Manta. Et Julie qui est l'assistante de Hervé Zitoun. Alors, Hervé, justement, je commence avec vous. Vous avez plus de 40 ans d'expérience. Peut-être quelques mots sur votre parcours, Hervé.
Oui, tout à fait. Je vais fêter mes 40 ans le 15 septembre. Voilà, commencé comme apprenti dans les télécoms. Donc, à l'ancienne, la grosse boîte en dur, électronique, tout ce qu'il faut. Et puis, l'évolution en permanence. De là, passé donc monteur, câbleur, après technicien, responsable SAV. Et puis ensuite, j'ai fondé R2G Group avec mon ami associé Guillaume.
D'accord.
Voilà, donc ça fait maintenant 8 ans qu'on existe. On travaille sur toute la France, principalement Val-d'Oise, Yvelines et l'Île-de-France.
Oui, la grosse entreprise, c'était Alcatel, hein, un fleuron de français quand même à l'époque.
Tout à fait, fleuron français, plus de 10 ans chez Alcatel et j'ai continué dans une PME locale et en continuant les activités, surtout sur l'Alcatel et me formant au fur et à mesure.
Et alors aujourd'hui, comment a évolué le métier des télécoms depuis vos débuts ?
Il a changé complètement, quoi.
C'est plus du tout le même métier.
C'est plus du tout le même métier. Avant, une installation se passait en une semaine, donc il y avait toute préparation. Le lundi, on commençait. Le vendredi, on faisait la mise en service. Derrière, il n'y avait pas de nom, prénom, pas de numéro de téléphone, c'était figé. Maintenant, c'est quasiment, c'est 99% de cloud par Internet, dématérialisé avec des applications mobiles. Donc, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, c'est une évolution permanente.
Et est-ce que vous sentez que les entreprises sont prêtes à accueillir toutes ces évolutions ?
Covid nous les a énormément aidés. Donc on a expliqué qu'on pouvait dématérialiser toutes ces installations, passer en télétravail, avoir le standard sur son mobile, pouvoir téléphoner avec son 01, avoir une application ordinateur. Donc ça nous a énormément aidés de ce côté-là. Et il n'y a plus personne en entreprise. Donc comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, on a expliqué, démocratisé. Et puis maintenant, on a un autre regard quand on explique la téléphonie d'entreprise à travers des applications.
Alors, je m'adresse à mes autres invités. Donc, vous, Sébastien, cette évolution dans la technologie, est-ce que c'est forcément un mieux, mais voilà, c'était facile de l'intégrer dans votre entreprise ?
Alors, oui, je peux déjà rebondir sur ce que disait Hervé. Je viens des télécoms, moi aussi. Ah. Et donc, effectivement, on a ce passé commun, même si je n'étais pas sur Alcatel et d'autres technologies. À mon époque, on a quelques années d'écart, on était déjà sur Internet.
Oui.
Mais en tout cas, l'évolution technologique aujourd'hui, elle a été effectivement poussée, comme tu disais, par le Covid. Dans mon métier, où j'équipe beaucoup de salles de réunion, on fait en fait des salles de réunion équipées en visioconférence pour permettre aux gens d'être à la fois dans un même lieu, une salle de réunion, mais aussi accueillir des gens qui sont à l'extérieur de cette salle et pour permettre quand même une vraie interaction qui soit pas juste une assistance, je dirais, passive et donc une participation facilitée.
Oui, donc facilitée. Un métier très technologique, donc.
Oui, non. En fait, je dirais un métier très humain. C'est-à-dire qu'effectivement, le sujet principal en ce qui me concerne, c'est de m'intéresser aux gens qui sont dans les salles et qui vont utiliser ces salles de réunion. Concrètement, on pense toujours à une caméra, un écran et un micro. micro, ça va vous parler, vous, ici à la radio. Mais en fait, on va peut-être pas déployer les mêmes équipements pour des gens qui font de la formation en milieu hospitalier.
Ah oui.
Ou des entreprises qui sont dans le tertiaire, qui peuvent voilà une activité de commercialisation. Donc en fait, ces gens vont déterminer vraiment la solution technique. Et après, les solutions techniques, elles sont innovantes par nature, dans mon métier comme dans celui d'Hervé. Et on met beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui pour masquer les bruits, pour filtrer justement les bruits qu'on se concentre quand on est à l'extérieur sur ce qui est dit et non pas sur le bruit environnant, pour avoir des gens qui sont filmés avec un zoom sur la personne qui parle plutôt que de voir l'ensemble des 18 personnes et finalement ne voir personne. Mmh. Donc en fait, on a beaucoup d'assistance grâce à la technologie pour justement casser cette barrière de « je suis à distance » par rapport à « je suis sur place ».
Ok, merci beaucoup Sébastien. Alors, Hervé Zitoun, vous intervenez aussi à la fois dans le secteur public et privé. Le pourcentage de l'un et l'autre?
On va dire 30% public. On est en ce moment énormément approché par les mairies, comme on est co-contractant d'Orange à cause des marchés figés ou les établissements publics ont des accords cadres avec, et que on a une spécificité en tant que distributeur Platinium de 3CX, c'est les standards téléphoniques, d'autant plus qu'on fait aussi du mobile et des lignes internet. On est approché de ce fait-là sur des particularités que ne fait pas par exemple Orange ou autre, et donc dans ce cas-là on fait un accord cadre entre Orange, la mairie et nous-mêmes sur la partie que on est spécialiste et que ne fait pas le signataire de l'accord cadre.
D'accord.
Donc ça, c'est la partie publique. Après, on fait beaucoup de PME, TPE, sur lesquels on les accompagne. Voilà, sur comment optimiser leur coût de communication et unifier le tout avec une seule facture, donc éviter d'avoir 36 millions d'interlocuteurs.
C'est clair, c'est clair. Et donc, est-ce que c'est le fait d'être à la fois opérateur et intégrateur qui fait la valeur ajoutée auprès de vos clients?
Oui. La valeur ajoutée aussi, c'est l'étude technique, mes 40 ans de métier, et vis-à-vis de mon associé qui, lui, a 25 ans d'expérience commerciale. Donc, on a une vraie bivalence et une écoute client avec une simplification de l'offre.
Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditrices et auditeurs peut-être justement la différence entre opérateur et intégrateur?
Oui, l'intégrateur intègre des solutions finales. L'opérateur, on est directement opérateur au même titre que d'autres qui vendent, on va pas citer de marque, mais d'autres qui vendent d'autres choses que les trois opérateurs, quatre opérateurs, parce qu'il y en a un qui va malheureusement, il risque de disparaître. On est revendeur direct de ces trois opérateurs. On passe par des grossistes, et ce qui nous permet de pouvoir placer les trois opérateurs directs, mais avec un seul service. Oui. Donc une seule facturation. Éviter les multi-facturations et un seul interlocuteur.
Donc le fait d'avoir choisi de vous installer il y a 8 ans, aucun regret?
Aucun regret.
Et donc Julie est avec vous aujourd'hui. Julie est votre assistante, elle est stagiaire, c'est ça?
Ah non, pas du
non,
tout.
Elle
fait partie de la team R2G à plein temps. Elle s'occupe de toute la partie ADV, de l'accueil client et du suivi de toutes leurs demandes. Donc elle est en frontale, la première à répondre sur les appels clients, de manière à pouvoir les guider et puis après passer aux différents services au sein de notre groupe.
Alors Julie, que dites-vous de cet emploi chez
Bah écoutez, ça a été une incroyable c'est une expérience hors du commun, parce que moi j'étais absolument pas du métier à la base, j'étais secrétaire d'auto-école, et là ça fait maintenant 2 ans que je travaille pour R2G Group, et puis j'ai l'occasion de venir ici et d'être avec vous, et c'est incroyable.
Oui, mais donc c'est que vous êtes complètement adapté à cette
exactement
à ce produit.
Oui.
Oui, très bien. Bah, écoutez, nous, on est ravis de vous accueillir, Julie. Hervé, aujourd'hui, quels sont les principaux enjeux pour les entreprises en matière de communication interne et externe?
La réactivité, pouvoir avoir la mobilité, oui. Excusez-moi, et donc d'avoir un service clé en main.
Oui.
Donc, c'est important pour eux.
Gaëlle, moi je m'adresse aussi à vous. Donc des services comme celui de Hervé Zitoun, vous pourriez y faire appel?
Alors oui, pour certains clients. D'ailleurs, on a eu ce qu'on appelle des recommandations chez Paris Business.
Oui.
bon, qui n'a pas abouti, mais en tout cas, quand un client chez moi a des besoins, évidemment, je fais appel à Hervé. Et oui, on peut avoir... Alors après, moi, je suis plus souvent avec quasiment des solo-entrepreneurs. Donc, souvent, et je travaille aussi avec une petite partie des artisans. Donc, ils ont, malheureusement pour Hervé, pas forcément besoin d'un standard.
Oui.
Ils sont avec leur portable sur le chantier de 8h à 19h. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais pour ceux qui sont plus administratifs, oui, les recos, forcément, ça peut, ouais, ça peut arriver.
Exactement. Merci, Gaëlle. Hervé, la question que je vais vous poser à chacun, pourquoi avoir rejoint un réseau comme Parisis Business après un parcours aussi solide que le vôtre?
C'est un réseau intéressant. D'abord, c'est des multi-entreprises, donc ça permet d'écouter les besoins, d'éviter le solo du chef d'entreprise qui se retrouve tout seul et qui ne va pas partager ses problèmes, et surtout un plaisir de recommander nos amis dans les différents métiers, parce qu'on permet de au fil des discussions avec nos clients ou nos amis ou divers, on peut faire des recommandations sur les personnes de confiance. Le fait de se voir tous les mardis matins permet entièrement de mieux comprendre, de mieux cerner les offres que proposent nos amis membres du Parisis et puis d'échanger sur la problématique diverse et variée.
Oui, donc aucune difficulté à se lever le mardi matin pour être présent, parce que je crois que c'est à partir de 7h30, c'est ça?
7h30, c'est un plaisir. C'est franchement un plaisir de retrouver tous nos copains.
Merci infiniment Hervé, merci pour votre regard d'expert. Peut-être que Mike voulait ajouter un mot sur Hervé Zitoun.
Déjà, je vais rajouter un mot parce que je suis client de R2G. Ouais, alors, je suis très content de l'être. Et par rapport à Hervé en tant que personne, c'est quelqu'un à qui on peut demander conseil, un service. Comme il dit, il fait partie de l'ADN du groupe Parisis Business. Et donc, c'est un plaisir de le voir tous les mardis matins.
Très bien.
Merci, Mike.
Merci Hervé, merci Julie pour votre regard d'expert sur l'évolution des télécoms et des besoins des entreprises. Merci à vous. Allez, on prend encore quelques minutes pour écouter un best-of de Louise Attaque, Je t'emmène au vent.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais... Que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le devant. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel.
IDFM, 98 FM.
Vous écoutez bien l'économie en direct sur IDFM Radio, votre rendez-vous pour comprendre les enjeux qui façonnent notre monde. Et merci de nous faire confiance. À mon micro aujourd'hui, Michael Baker, gérant de Tavernier Autoservice Groupe Midas, Hervé Zitoun, directeur technique et cofondateur de R2G Group, Gaëlle Chavez, fondatrice et gérante de l'entreprise Coassist, et Sébastien Bonner, fondateur et PDG de Manta, avec Julie en prime, assistante de Hervé. Alors Gaëlle, je vous ai déjà accueillie dans cette émission, c'était en 2022, donc vous avez largement le droit de revenir, hein. Vous auriez même pu venir plus tôt. Avant. Ouais. Oui. Gaëlle, vous avez fait le choix de l'entrepreneuriat en solo, d'ailleurs je crois qu'en 2022 vous démarriez, si je me souviens bien.
J'ai démarré en 2020, en octobre 2020.
C'est ça, vous étiez vraiment au balbutiement de l'entreprise. Vous nous rappelez ce qui vous a motivé à créer Coassist ?
Alors, c'est parti d'une expérience très personnelle. Je vais faire relativement court quand même. Je suis partie au ski en février 2019. Je me suis bien blessée. Je vous passe les détails, mais là-dessus, j'étais encore salariée à ce moment-là et j'avais signé une prévoyance. Et en fait, dans les prévoyances, quand vous êtes salarié et qu'il ne vous arrive rien, vous n'y pensez absolument pas. Mais quand il vous arrive un pépin comme ça, à un moment donné, vous dites « Ah mais oui, mais j'ai signé ça il y a 15 ou 20 ans quand je suis rentrée dans la société ». Je vais voir ce que ça donne. Et en fait, j'ai sorti ce qu'on appelle le dossier prévoyance. Donc, je me suis mis dans l'administratif pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un parcours du combattant. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comment font les gens qui n'ont pas le temps parce qu'ils rentrent à 19-20 heures du travail? Et puisque de toute façon, à cette heure-ci, il n'y a pas les interlocuteurs. Et donc, en fait, le principe de Coassist est parti d'une idée simple en se disant, j'ai payé, pendant 20 ans, j'ai cotisé. Au travers de mes salaires donc j'y ai droit mais on est en train de me dire que non, donc c'est pas possible. Donc en fait je me suis battue et c'est la genèse vraiment de Coassist, elle est là. Alors après vous rencontrez des gens qui vous accompagnent dans votre projet, on vous dit le particulier ça risque d'être un peu compliqué en termes de facturation et de revenus, donc moi si j'étais toi j'irais plutôt sur du business, enfin du B2B. Et donc voilà, c'est comme ça qu'après ça a cheminé. Mais vraiment, la genèse, c'est ça. C'est de me dire, j'ai droit à quelque chose, je demande pas l'aumône. Et personne ne me l'accorde parce que pour X ou Y raison, on me dit que non, j'ai rien, ceci, cela. Voilà, c'est comme ça qu'est née la société.
Et pour la petite histoire, j'imagine que vous êtes bien battu, mais que vous y aviez eu droit.
Vous y avez eu droit. Oui, j'ai commencé mon combat, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en mai. Et j'ai eu gain de cause en octobre. Donc il faut quand même.
Vous n'avez pas lâché.
Ah non, voilà. Et je me rappelle très bien de ce que j'avais dit quand j'avais terminé l'interview chez vous en 2022, ne jamais rien lâcher. Et je dirai ça de toute façon tout à l'heure aussi. Il ne faut jamais rien lâcher, vraiment. Surtout quand vous êtes dans votre droit.
Bien sûr.
Ouais. Surtout.
Alors, externaliser l'administratif, ça reste quand même un frein pour certains dirigeants. Oui. Comment les convaincre?
On va dire que c'est très facile parce que quand ils sont complètement perdus toute la journée et quand ils s'aperçoivent qu'à la fin de la journée ils ont fait que de l'admin et pas été chercher des clients, des prospects, pas de rendez-vous et que le chiffre d'affaires stagne, c'est qu'à un moment donné il faut déléguer. Alors effectivement l'administratif ou toute autre chose c'est très compliqué de déléguer, d'autant plus que moi je fais pas mal de ce qu'on appelle de l'ADV, l'administration des ventes. Et donc ça veut dire que j'ai accès au relevé bancaire, donc ça veut dire des informations que les gens ne veulent pas forcément.
Confidentielles.
Exactement. J'ai accès évidemment à l'expert comptable, enfin je suis en lien direct avec les experts comptables. Je fais de la facturation, donc c'est pareil, c'est des données sensibles. Savoir que quelqu'un facture 2000 euros ou 15 000 euros ou 30 000, c'est pas la même chose. Donc évidemment, moi, ça reste, une fois que je suis partie du bureau, ça reste dans le bureau, évidemment. Mais il y en a qui mettent du temps à se dire, là, j'y arrive plus, en fait. Là, je passe à côté de mon métier, je passe à côté de ce que j'aime faire, qui est le commercial, et d'aller chercher des nouveaux clients ou de fidéliser mes clients.
Donc vous êtes en train de nous dire que de faire appel à Coassist, ce n'est pas une dépense, mais un investissement.
C'est exactement ça. Alors, vous auriez pas pu mieux dire. C'est exactement ça. Alors au début, c'est une dépense parce que dans la démarche de l'employeur, enfin de l'entrepreneur, c'est une dépense. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit vite que c'est un investissement. Mmh. Mais je suis d'accord avec vous. Le pas parfois, il est un peu
peut être un peu compliqué.
Un peu compliqué. Il faut être patiente.
Et aujourd'hui, après, on est en 2026, donc ça fait 6 ans que vous avez créé. Oui. Quel retour vous pouvez nous... Enfin, quel bilan vous feriez sur votre activité ?
Alors, j'ai la chance d'avoir pas mal de clients qui sont récurrents. C'est-à-dire que quand les personnes ont justement passé le pas, c'est des gens qui ont besoin de vous quasiment une fois par... quasiment toutes les semaines. Enfin, même, oui, j'ai quasiment des clients une fois par semaine. Alors après, ça peut être des demi-journées ou des journées complètes. Mais en tout cas, c'est toutes les semaines. C'est très récurrent. Donc ça, c'est aussi facile dans mon pilotage, moi, de société.
Ça vous évite de prospecter à nouveau.
Exactement. Pour autant, il y a quand même une saisonnalité que je vois depuis 4 ans, mais au moins 4 ou 5 ans, c'est qu'en fin d'année, vous avez les fameux budgets qui s'arrêtent, etc. Donc j'ai toujours un moment un peu compliqué entre décembre et mars. Voilà. Et après, ça repart.
Mais c'est oui, parce qu'il y a l'établissement des bilans et tout
exactement,
ça. Donc,
exactement. Ouais. Donc je sais, je me prépare novembre, on va commencer à me dire, ça va être un peu compliqué, etc. Mais sinon, voilà, j'ai la chance qu'on me fasse confiance. Qu'on me fasse
assez facilement. Mais j'imagine que c'est parce que en face il y a des vraies compétences.
Bah, oui, alors oui, on va dire ça.
Mais alors Gaëlle, vous avez fait une formation pour vous installer parce que alors, j'imagine que vous connaissiez pas tout ce que vous connaissez
non,
aujourd'hui.
Et encore, je vais en apprendre tous les jours, forcément. Moi, à la base, j'ai un BTS action commerciale en alternance, donc j'ai pas mal bossé. Enfin, j'ai commencé très vite à travailler dans les sociétés, à mettre un pied sur le terrain. Et après, j'ai fait une école de commerce, pareil en alternance. Donc, au-delà de mes petits boulots, mes jobs d'été, on va dire, et d'étudiants à côté, j'ai fait 4 ans d'alternance. Toutes mes études supérieures ont été faites en alternance. Donc, le monde de la société, alors on va dire, je ne connais pas, mais en tout cas, ça a été plus facile, moi, pour m'intégrer et monter ma boîte. Après, il y a des formations aussi, quand même, que vous pouvez faire, notamment à la CCI du Val d'Oise. Il y a des formations qui sont plutôt pas mal sur 5 jours. Et voilà, après, on apprend tous les jours. L'administratif, de toute façon, ça change tellement qu'il faut se mettre à la page. Enfin, moi, j'adore parce que...
Oui, c'est très varié.
Ouais, c'est tellement
c'est
riche.
C'est jamais la même chose.
Ouais, et puis les clients sont...
Oui, c'est ça. Vous avez une relation de confiance avec vos clients, donc ça...
Ouais,
c'est énorme.
Oui. Ouais, c'est... Mais parfois, ils vous demandent des choses... Enfin, je sais pas si moi, à l'inverse, je le ferais. Même en prenant quelqu'un qui ferait mon administratif, je sais pas si j'irais jusque-là. Donc, c'est très bien pour
mieux,
moi.
Ouais, sûr,
c'est
oui.
Très flatteur, mais je me dis parfois quand même...
Ah bah
je sais pas si je... Ouais, exactement. Exactement.
Alors, vous parliez d'ADV, d'accompagnement RGE. Concrètement, citez-nous un exemple de problème que vous auriez résolu récemment.
Alors, j'ai une société qui travaille dans le domaine de la retraite et en fait, ils sont une petite cinquantaine. Et en fait, il y a deux personnes, vous savez, au CSE, il faut que les formations, les deux personnes du CSE soient formées. Et en fait, elles ont été nommées l'année dernière. Et donc, il y a un délai de quelques mois pour accéder à cette formation-là. Et quand j'ai pris la mission, c'était en février, on m'a dit le premier sujet, s'il faut vraiment les mettre en formation parce qu'on va être hors délai. Donc, il a fallu que je trouve l'organisme, qu'on les mette en formation, enfin, qu'on organise la convention, etc. Et il y en a une qui a commencé il y a 2 semaines et une autre qui commence dans 3 semaines. Voilà. Alors, c'était pas un gros problème, mais il n'empêche que la direction s'en était absolument pas occupée parce que ça fait pas partie des priorités.
Une histoire de délai qui était
qu'il faut respecter parce que ça fait partie des délais légaux, donc on peut pas faire autrement. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Je travaille pour une avocate dans Paris où elle a pas le temps de faire sa facturation, donc elle, ça fait quand même 4-5 ans que je travaille pour elle, donc c'est une longue mission, une fois par semaine. Et là, j'ai fait toute sa facturation et toutes ses relances de facturation. Là, c'est vraiment que de l'ADV pure et dure, mais faut le faire parce que c'est la mère de la guerre.
Si elle facture pas,
elle
disparaît.
Voilà,
oui, Michael.
Oui, j'ai une réflexion par rapport au métier de Gaëlle. Est-ce qu'elle pense que la facturation électronique va beaucoup changer son métier et est-ce qu'il faut qu'elle anticipe de changer sa façon de travailler à cause de ça?
Ça va changer forcément. Néanmoins, on a quand même toute une période de formation. Parce que vous vous rendez bien compte que les entrepreneurs ne sont pas du tout... Alors, il y en a qui savent que ça va arriver, mais mettre en place la plateforme, etc., pour que ça soit efficace, à J-, pas beaucoup de temps, il y en a plein qui ne sont pas au courant. Donc oui, sur la facturation en elle-même, oui, ça va changer un peu, mais pas tout de suite. Je pense plutôt court terme, plutôt l'année prochaine. Mais c'est la mise en place. Là, c'est une catastrophe. Enfin, il y en a encore qui font des... Je travaille avec des artisans, il y en a encore qui font la facturation sur Excel.
Mmh. Voilà. Oui. Et on en parle beaucoup de ce fameux
là, ça
Excel.
Va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué.
De toute façon, les toutes petites entreprises, c'est septembre 2027 qui va être le...
Oui, mais pas en réception. Tu sais, en réception, tu dois pouvoir avoir ta plateforme quand même. Ouais. En émission, oui. Mmh. C'est pour ça qu'on a encore un peu de temps et c'est pour ça que je te disais que ça ne va pas changer tout de suite. Mais oui, ça va changer forcément. Mmh.
Est-ce que vous faites, alors c'est la question me vient, Michael, vous faites des petites formations au cours des ateliers, vous faites des ateliers chez Parisis Business ce genre de problématiques.
Exactement, on a eu Arnaud qui est intervenu, je crois, il y a un mois, quelque chose comme ça, sur le pauvre, on lui avait dit, tu as 10 minutes, il a pris toute l'heure de la réunion, parce que c'est vaste, et puis c'est important en plus, c'est un sujet.
Donc Arnaud Jomard, membre du Parisis, et de Fiteco, les experts comptables basés à Saint-Leu.
Mais je ne suis pas sûre qu'il ne fasse pas une deuxième intervention.
Eh bien, il nous en parlera quand il viendra. J'espère qu'il va venir bientôt.
Bah oui.
Gaëlle, alors vous insistez sur le fait de ne pas rester seule quand on est entrepreneur, mais vous-même, qu'est-ce que Parisis Business vous a apporté concrètement ?
Alors, plusieurs choses. Je vais commencer par du professionnel jusqu'au moins professionnel. France pas l'essentiel, Marc. Le fait de ne pas être toute seule, ça c'est clair. Et j'ai commencé pas forcément...
Malgré une activité très riche, vous éprouvez ce besoin.
Bah voilà, c'est dans le calendrier, le mardi matin, c'est comme un rendez-vous client, on y va, c'est pareil, ça change rien. Donc ne pas être toute seule, c'est ce que disait Hervé, on a des activités totalement différentes, mais en fait quand vous commencez à connaître les membres et quand vous commencez à travailler, à parler avec eux...
On a tous les mêmes problématiques.
Exactement, à un moment donné...
À part le produit.
À part le produit, exactement, mais à un moment donné, que ce soit une année après sa création ou 10 ans plus tard, on a tous les mêmes problèmes à un moment donné, enfin la même problématique, comment t'as fait ? T'as fait comme ça, ok, alors après vous écoutez... Vous ne faites pas forcément comme ils veulent. Enfin, voilà. Mais en tout cas, vous avez des échos. Donc ça, c'est pas mal. Après, vous avez... Moi, ça fait 3 ans que je suis au Parisis Business. Bon, on se fait des copains, clairement. Voilà. On part en séminaire, on s'éclate. Voilà.
Avez vos soirées club.
On a nos soirées club. Et puis le mardi matin, malgré tout, petit déjeuner, c'est quand même hyper sympa aussi. Donc... Non, et puis on fait de la recommandation, on a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Moi j'ai eu une recommandation la semaine dernière sur l'administratif d'un membre. C'est de la vraie entraide professionnelle, psychologique. Pour rien au monde.
Alors pour nos auditrices, auditeurs qui nous écoutent, qui seraient tentés de faire appel à vous, on peut parler tarifs, Gaëlle ?
Oui, on peut parler tarifs. C'est pas une honte, tout le monde doit être payé et tout le monde doit... Je suis souvent pour les missions ponctuelles, quelques heures par-ci par-là, c'est plutôt sur de l'heure passée, c'est du temps passé. Mmh. Et je suis entre 50 et 65 euros hors taxe de l'heure. Après, la différence, c'est s'il y a déplacement, pas déplacement. Voilà, c'est toute la différence.
De déplacement.
Exactement. Et après, si c'est des missions récurrentes, donc qui reviennent chaque semaine, là, je fais au forfait, ça dépend un peu de ce qu'il y a à faire.
Ouais, bien sûr.
Parce que là, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le CSE, c'est une... Là, je fais du contrôle de gestion sociale. Donc, toutes les semaines, les sujets sont différents, c'est varié, ça me demande des recherches, etc. Mais c'est hyper intéressant. Et voilà, donc le tarif peut changer un peu. Voilà.
Quels sont aujourd'hui vos défis prioritaires ? Le développement, le recrutement, la visibilité ?
Alors, développement, recrutement, non. Visibilité, oui. Et ça va être plutôt développement. Parce que là, j'ai encore... j'ai l'équivalent, grosso modo, d'une journée qui me reste au planning. Donc, oui, pourquoi pas développement. Voilà. Et visibilité. Bon, on a Jean-Hervé au Parisis qui fait beaucoup, beaucoup de posts LinkedIn. Donc, du coup, chaque fois que je vois quelqu'un du territoire, on me dit « Ah, mais t'es tout le temps en train de faire des posts. » Alors, on vient m'en face, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est toute la visibilité que nous amène le Parisis Business. Donc, c'est parfait. Donc,
très bien.
Voilà, plutôt développement, ouais.
Et vous nous avez parlé de confidentialité tout à l'heure. Quelles qualités sont indispensables dans votre métier aujourd'hui ?
Savoir s'adapter. Parce que chaque client est différent. Vous voyez, je travaille dans un cabinet d'avocats où on ne se comporte pas de la même façon. Mmh. Les codes ne sont pas les mêmes que dans une société qui traite de la retraite, justement. Donc ça, c'est... parfois, j'ai l'impression d'être un caméléon. Voilà. Et quand je travaille avec des artisans du bâtiment... Bon, là, pour le coup, on ne parle pas du tout de la même manière non plus. Voilà, donc adaptabilité, ça, c'est important. Discrétion, évidemment. Confidentialité, évidemment. Et puis le respect du client aussi, parce que c'est important.
C'est important.
Donc, eux vous respectent aussi, parce que j'ai eu un client qui ne m'a pas respecté. Je lui ai dit merci, au revoir en 5 minutes. Voilà, c'est pas... Souvent, souvent l'assistanat administratif est pris un peu comme péjorativement la secrétaire. Alors là, quand on commence à me traiter comme la secrétaire, c'est au revoir.
Ça va plus.
Merci. Non, ça va
plus.
Non, ça va. C'est un métier à part entière. Enfin, voilà.
En tout cas, Gaëlle, moi, je me souviens, alors si je me souviens pas des propos qu'on avait eus en 2022, vous m'aviez impressionnée par votre énergie, votre enthousiasme, et je le retrouve intact.
Oui, voilà.
Donc, c'est formidable.
Merci
à vous.
Merci, Jacqueline.
Michael, un mot pour Gaëlle.
Un mot pour Gaëlle, effectivement, elle est très enthousiaste, que ce soit le mardi matin à 7h30, il faut se battre pour avoir un morceau de pain et du beurre salé, parce qu'elle aime beaucoup ça.
Elle est hyper active dans
aussi,
tous les
donc,
sens.
Voilà. Donc c'est une compétition pour voir qui arrive le premier. Ce que je pense de ce qu'elle vient de dire par rapport à son métier, c'est l'histoire de l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit effectivement un peu différente selon le type de client, et aussi qu'elle soit un peu sophrologue pour rassurer, pour bien vendre son produit. Parce que je pense que quand elle vend son produit, c'est souvent des gens qui sont dans le déni. C'est-à-dire, ils savent pas qu'ils ont un problème.
Exactement.
Et d'attendre la dernière minute et d'être en dépôt de bilan, c'est pas la solution pour l'entreprise, ni pour Gaëlle. Et donc, c'est de savoir trouver les mots pour dire à la personne, vous avez des problèmes, je vais vous les régler sans vexer l'amour propre de la
bien
personne.
Bien sûr,
et je crois que c'est une de ses qualités principales.
Elle sait le faire.
Merci, Mike.
Ben merci. Merci Gaëlle pour votre engagement auprès des entrepreneurs.
Merci à vous, Jacqueline.
Allez, place de nouveau à la musique avant de poursuivre l'émission, et je vous propose d'écouter De Palmas, Sur la route.
IDFM Radio, où que vous soyez, via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct, et merci de rester avec nous jusqu'à 11h en compagnie de quatre membres du Parisis Business, qui est partenaire d'IDFM Radio, et on en est très heureux chez IDFM Radio. Donc, ces adhérents sont Michael Baker, gérant de Taverny Autoservice du groupe Midas, Hervé Zitoun, directeur technique et cofondateur de R2G Group, Gaëlle Chavez, fondatrice et gérante de l'entreprise Coassist, et Sébastien Bonner, fondateur et PDG de l'entreprise Manta. Et alors précisément, après avoir parlé d'organisation et d'efficacité, on va parler d'une entreprise et de sa capacité à communiquer, à collaborer, à créer du lien, notamment à distance, ce qui est votre cas, Sébastien.
Exactement, tout à fait.
Donc vous-même, votre parcours, Sébastien.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé par les télécoms, par la voix. Et assez vite, je suis passé à faire de la visioconférence, donc j'ai ajouté l'image à la voix. Et ça m'a amené petit à petit à faire mon métier d'aujourd'hui, qui est de l'audiovisuel, donc l'intégration audiovisuelle. Et c'est équipé essentiellement des salles de réunion pour 80% de mon activité, de tout ce qui sert justement à mettre les gens au travail autour d'un sujet, généralement autour d'une table, et donc à distance également, depuis Covid, c'est devenu monnaie courante en visioconférence. Mais également, on fait d'autres activités qui sont assez proches de tout ça, qui sont la sonorisation des espaces d'accueil ou les écrans qu'on peut trouver dans les espaces d'accueil, les salles d'attente, voire carrément les boutiques. Et j'ai également fait une salle de culte récemment, donc on va jusque-là.
D'accord, oui, en fait, tous les champs sont ouverts.
Oui, dès qu'il s'agit de son et d'image. Voilà, tout à fait.
Et votre installation s'est faite à l'occasion du Covid, de l'après-Covid, ou rien à voir?
Pas tout à fait. J'ai lancé en fait l'activité d'intégration du visuel chez l'employeur chez qui j'étais jusqu'alors. Mmh. Et tout simplement, c'était une belle histoire, c'était de l'intrapreneuriat. Et en fait, je présentais l'intrapreneuriat comme étant un manque de courage entrepreneurial. Et en fait, tout simplement, ça m'a donné cette confiance nécessaire pour me lancer à mon compte, tout simplement, un peu plus tard. Et en fait, c'était lié aussi, et pas seulement au manque de courage, rassurez-vous, mais aussi, ça tenait du fait que je voulais mettre un peu plus de mes valeurs et de mon humanité dans cette activité, ce que je ne pouvais faire dans un
groupe. Il y avait des choses que vous aviez remarquées et vous aviez envie de les changer.
Oui, en fait, tout simplement, je parlais tout à l'heure de s'intéresser aux gens qui allaient utiliser les espaces, de mettre plus d'emphase sur cette partie-là. Puisque quand on fait partie d'un grand groupe, on est effectivement tenu par des métriques. Il faut vendre, il faut faire du chiffre, il faut remplir un certain nombre de cases. Et ces cases-là, c'est bien.
Il faut que la société ait des dividendes.
Oui, voilà. Et ces cases-là, elles sont bien parce qu'en tant qu'entrepreneur, on partage tout ça. C'est qu'il faut effectivement boucler les fins de mois, mais pas que les fins de mois. Il faut avoir un peu de projection. Pour moi, il manquait la chose qu'on doit apporter. C'est tout travail doit apporter une valeur. Et effectivement, la valeur qu'on doit apporter, c'est pas juste le chiffre qui doit rentrer. Mmh. C'est effectivement le client qu'on a en face de nous, comment effectivement lui il va tirer profit de ce qu'on va lui fournir, que ce soit un service ou un matériel, quelle que soit la prestation qui va être délivrée, il faut qu'elle apporte quelque chose. Donc j'ai voulu me remettre à ce niveau-là en fait.
Donner du sens à votre activité.
Exactement.
Et en quoi vos solutions donc changent la manière de travailler des entreprises ?
Alors, la solution en elle-même, je dirais qu'elle est finalement assez simple. Je l'ai définie en parlant de visioconférence. Mmh. Ça parle à tout le monde depuis qu'on a fait des apéros Zoom en 2020. Voilà. Donc, ça peut être ça. Ça peut être effectivement du convivial. Aujourd'hui, on a parlé un tout petit peu de technologie tout à l'heure avec Hervé. L'IA permet de faire de la retranscription. On n'a plus besoin de prendre de notes quand on est en réunion. L'IA permet de faire ce genre de choses. Mmh. Pour ça, il faut capter correctement le son et l'image. Savoir que c'est Jacqueline qui a dit telle chose et qu'elle a pris l'action de faire un compte-rendu plus tard ou de faire une action, d'aller appeler tel client, eh bien, c'est là où la technologie peut nous aider. Donc, mon rôle, effectivement, est d'apporter le bon niveau technologique pour des gens qui sont capables de l'accepter. C'est-à-dire que, typiquement, si je parle à des ingénieurs, ce genre de promesse, je peux la proposer. Mmh. Je parlais tout à l'heure, de façon un peu anecdotique, de formateurs en milieu hospitalier. Là, évidemment, on ne va pas apporter la même réponse technologique. Donc voilà un petit peu la promesse qui est la mienne, c'est de m'adapter, voire de me suradapter, m'assurer que ce que je compte proposer corresponde vraiment à la fois à un besoin, mais aussi qu'il soit utilisable au quotidien. Je considère que le pire pour moi, c'est d'installer quelque chose qui n'est pas utilisé.
D'accord, oui, bien sûr. Et donc la cible de vos clients, quelle est-elle ?
Alors, de l'entreprise dans laquelle il y a du bâtiment tertiaire, des salles de réunion dont je parlais tout à l'heure, mais également du milieu associatif, parce que finalement, en association, on a souvent les mêmes besoins. On a des populations qui sont investies par une mission plus que par un rôle, un métier. Et puis, je parlais du milieu hospitalier. En fait, c'est assez varié. Dès lors, effectivement, qu'on a des gens qui ont besoin de travailler ensemble et de produire quelque chose. J'ai eu l'occasion, dans le cadre des salles de formation, de travailler sur un parcours dans lequel on met des écrans tactiles, mais on met aussi du contenu qui va être affiché à différents endroits pour faire des salles dites immersives. Ça, c'est des choses qui sont hyper enthousiasmantes. Quand on met autour de la table un chirurgien, mais il ne faut pas que je parle trop de médical, mais effectivement, un chirurgien, un radiologue.
Oui, on va vous cataloguer.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des gens qui, moi, me nourrissent aussi dans l'échange que je peux avoir avec eux, parce qu'ils ont une vision de leur métier qui est très, très spécifique et évidemment très professionnelle. Et il faut que je me mette à leur niveau. Et c'est dans ce sens-là que ça me nourrit énormément.
Et en même temps, je suis certaine qu'ils doivent terriblement apprécier quand vous venez, parce que eux-mêmes, ça les sort un petit peu de leur univers. Et puis voilà, ils font appel à autre chose.
Oui, c'est ça. Alors, en plus de ça, j'essaie de me présenter présenter Manta comme étant une entreprise à la fois innovante et en même temps accessible pour tout le monde. Souvent, l'accessibilité, je la caricature en disant il n'y a pas de câble, ou si on met un câble, c'est un seul, et il n'y a pas besoin de mode d'emploi, du coup, parce que tout le monde va comprendre comment on utilise l'espace. Et en même temps, s'il y a la technologie, il ne faut pas qu'elle soit trop visible.
Oui, oui.
Donc le micro, comme ceux qu'on utilise là, qui sont très visibles, ben, ça, pour moi, c'est à proscrire, parce que ça peut être très intimidant. Je pense qu'il y a des gens qui viennent chez vous et qui sont intimidés par la présence d'un micro. Donc voilà, c'est le même genre de choses, les caméras petite, discrète, cachée. Et bon, voilà, c'est un petit peu l'idée. C'est de mettre les gens plutôt en confiance.
Pourquoi Manta ?
Justement, parce que je parlais à l'instant de câble et d'esthétique. Dans le métier de l'intégration audiovisuelle, il y a beaucoup de gens qui viennent plutôt de l'équipement audiovisuel de spectacle. Dans le spectacle, il faut que ça fonctionne. Peu importe s'il y a 3 km de câble en trop, il faut que ça fonctionne. Peu importe si c'est pas joli, du moment que ça fonctionne. Dans mon métier, je m'intègre dans un bâtiment. Je travaille avec des architectes qui font des ambiances d'intérieur. Je travaille avec des gens aussi qui font on appelle ça le maintien en condition opérationnelle. Donc le fait d'avoir en fait une solution qui fonctionne longtemps. Et plus il y a de boutons, plus il y a de câbles, plus potentiellement c'est anxiogène. Donc je voulais mettre un accent en particulier sur le côté esthétique. Et puis la raie manta est aussi un animal qui est très social, sociable. Et il chasse en meute, voilà. Et donc ce côté écosystème, environnement était important. Pas environnement au sens écologie, mais on fait tous, on a des activités qui ne peuvent pas être exercées tout seul. Il nous faut des clients, des fournisseurs. D'ailleurs, j'ai 3 confrères ici, donc ce sont 3 fournisseurs, pour le coup. C'est un peu l'illustration de ça. On ne peut pas, en fait, être un poisson pilote et fonctionner tout seul. Donc il faut tenir compte de tout ce qui nous entoure. Et voilà, je trouvais que Manta était une belle illustration de tout ça.
Mais c'était une bonne question, finalement.
Très bonne question. Ouais, merci.
Pour avoir cette explication. Oui. Merci, Sébastien. Et est-ce que, depuis le développement du télétravail, les besoins ont explosé ?
Alors, exactement. Il y a eu, en tout cas pendant Covid, il y a eu un pic qui était un besoin d'équipement massif. Peu importe si c'était, pour le coup, bien pensé, il fallait équiper. On est loin après Covid maintenant. Et dans tous les cas, les installations, les équipements déployés sont assez proches de l'informatique dans le sens où ils ont une durée de vie de 3 à 5 ans. Donc il y a déjà eu un premier renouvellement. On a tiré des leçons de ce qu'on avait fait à l'époque. Je dis les clients, les gens qui ont équipé à l'époque, ont tiré des leçons de « Ok, on a fait dans la précipitation, il a fallu cocher une case, maintenant on va penser un peu mieux les choses. » Et sans vouloir non plus tout mettre par terre, parce qu'il ne s'agit pas de faire des révolutions, souvent c'est plutôt des petites évolutions qui sont le mieux acceptées par les utilisateurs. Donc on va essayer justement par petites touches, par itérations successives, modifier l'existant pour en faire quelque chose de plus utilisable, de plus performant.
Et tout le temps dans l'amélioration
du produit. Oui, c'est ça, exactement.
Sébastien, vous avez aussi une particularité, c'est que vous recrutez localement, vous utilisez des véhicules électriques. Ouais. Est-ce que ça devient un critère pour vos clients aussi ?
Alors, oui, non, c'est pas encore un critère.
C'est plus
dans le
personnel.
Choix. Alors déjà, effectivement, ça part d'une conviction personnelle. Je parlais tout à l'heure de travailler dans un environnement. Donc c'est logique que d'aller chercher localement des collaborateurs. J'ai mon premier stagiaire qui est devenu alternant et qui sera peut-être bientôt embauché. Donc moi, je suis établi à Saint-Gratien. Mm-hmm. Mais il vient du lycée Monod qui est établi entre Saint-Gratien et Enghien-les-Bains.
Ouais.
Donc assez logiquement, j'ai été voir le lycée dès que j'ai ouvert. Ah oui, bien sûr. Et donc je fonctionne comme ça déjà pour mes propres salariés, pour mes prestataires aussi. J'essaie de faire travailler le CEDRE, que vous connaissez sûrement, qui sont établis à Argenteuil, qui font de l'emploi. En particulier de personnes handicapées, pour faire ce recyclage, valorisation des déchets. Là, une manière, j'ai pris effectivement le pas de me dire, plutôt que d'acheter des véhicules diesel, alors je n'ai pas calculé que potentiellement ça pouvait être un bon plan économique.
C'est aujourd'hui, mais vous êtes en train de...
Oui, pour le coup, j'étais déjà à la mode avant la mode. Et donc, je me suis équipé que de véhicules électriques. Donc, ce ne sont pas tout ça des critères de choix chez mes fournisseurs. Après, dans la conversation, parce que quand on rencontre les gens, on n'a pas juste un produit, une solution, un service à proposer. Généralement, on crée du contact, et moi, je ne sais pas faire autrement que de créer du lien avec les gens que je rencontre. Eh bien, on parle de ça, et ça amène effectivement peut-être un peu de curiosité pour certains aspects, et puis peut-être aussi tout simplement de la considération. Donc, je pense que la case est bien cochée pour le coup.
Oui, c'est clair que vous insistez sur la dimension locale et sociale. On sent que c'est très important pour vous.
Oui, exactement.
Et probablement que votre clientèle doit être à votre image, parce que il doit y avoir ça fait miroir.
Oui, oui, de toute façon, on attire les gens qui nous ressemblent, je crois. En tout cas, pour moi, c'est ça. Après, je vous avoue que je fais quelques installations en province, et donc en électrique, c'est pas toujours facile.
Ouais.
Quand il faut aller, j'étais récemment à Rennes, à Brest, à Nantes, voilà, ça, cette partie ouest est assez lointaine quand il faut y aller en veillant en utilité électrique.
Il faut prendre plus qu'un petit déjeuner pour recharger.
C'est ça. Non, mais c'est juste que voilà, il faut faire plusieurs arrêts.
Ouais.
Mais en dehors de ça, oui, on a des clients qui nous ressemblent. Ça, c'est, je pense, assez clair. Mm-hmm. D'ailleurs, Gaël, tu le disais, il y en a qui on n'hésite pas à dire non quand on voit que ça va pas coller. Moi, j'ai pas eu encore l'occasion de dire non trop souvent. Mais peut-être que justement, voilà, c'est naturel. Les choses font naturellement.
Je vois Hervé qui opine du chef pour en disant vous aussi, vous dites non parfois.
Bah non, mais il est vrai que on a un ADN avec nos clients auquel on fonctionne de la même manière. On a une philosophie et on voit très très bien et très rapidement l'approche et nos clients deviennent très proches parce que on rentre un peu dans leur vie entre guillemets du fait qu'on a toute la téléphonie, tous leurs moyens de communication, on va avoir les mobiles, l'internet, la téléphonie entreprise, donc
oui, là aussi vous rentrez dans l'intime,
on rentre dans l'intime, voilà, donc on sait tout ce qui se passe, on a les urgences, de là il faut réagir et si on n'a pas une vraie cohésion, une vraie vision d'ensemble sur les mêmes problématiques, on a du mal avec certains clients. Donc des fois,
si c'est pour se heurter, c'est pas la peine.
C'est pas la peine, voilà. Donc,
c'est clair. À moins de facturer très cher. Ça peut être un critère.
On a pour principe que de dire on facture pas forcément un prix, mais on accompagne et on offre un service. Voilà, et on est dans la proximité du service. Voilà. Le prix, c'est autre chose. Voilà.
Oui,
on parle pas forcément d'argent.
Merci Hervé Zitoun.
Merci.
Alors Sébastien, vous, vos principaux défis en tant que dirigeant aujourd'hui? Quels sont-ils ?
On a parlé de croissance tout à l'heure avec Gaëlle. Je crois que c'est à peu près le même défi pour moi. Je suis encore au début de l'aventure qui a commencé il y a 2 ans et demi, en ce qui me concerne, en tout cas en tant que mentor. Et je ne suis pas du tout arrivé à la cible, en tout cas en termes d'organisation, de couverture, de produits, de services, et puis même géographique. Donc voilà, j'ai l'ambition de continuer à croître. Et ça se fait par l'acquisition de nouveaux clients notamment, et de nouveaux collaborateurs aussi, par la force des choses. Donc ce sera... Je pense mon seul focus sur l'année qui vient et l'année d'après encore.
Voilà. Très bien. Et alors, vous, pourquoi avoir rejoint le Parisis Business ?
Eh bien, ça a été très bien dit d'ailleurs par Gaëlle tout à l'heure quand elle a parlé d'isolement. En fait, le début de l'histoire, c'est que je connaissais Gaëlle et Hervé pour avoir été en pépinière, dans la même pépinière qu'eux deux. Et ils m'ont dit, on a un groupe super à te présenter, il faut que tu viennes voir. Et bon, il fallait pas grand-chose pour piquer ma curiosité. Donc j'y suis allé. Et en fait, ce qui m'a plu pour le coup, c'est justement ce groupe à taille humaine, assez hétérogène par les activités. Mike en a parlé tout à l'heure. Et en même temps, des convergences parce qu'il y a des petites boîtes solo-entrepreneurs, il y a des boîtes plus grosses. Donc finalement, tu l'as dit aussi, Gaël, les problématiques qu'on rencontre à un moment donné, on peut en parler plus facilement à des gens qui ont rencontré les mêmes problématiques avant nous. Et puis si c'est pas le cas, ensemble on peut aussi avoir peut-être plus d'idées.
Oui, c'est clair.
Et voilà, et en fait je pense qu'aussi pour chacun d'entre nous, on est sur le plan personnel pas entouré d'entrepreneurs, que ce soit nos compagnes ou nos compagnons ou notre famille. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important aussi de pouvoir parler de nos problématiques à des gens qui vivent la même chose. Ou de partager nos joies à des gens qui ont vécu la même chose ou qui vivent encore la même chose. Parce que c'est pas que des problèmes, heureusement, on ne parle pas que de ça. Et voilà, donc... Mais par exemple, ces dernières semaines, j'étais pas beaucoup au Parisis Business puisque j'ai eu beaucoup de travail en province. Donc ils me disent tous, là, demain tu viens. Oui, demain je viens.
Non, mais je vous rejoins parce que moi, dans une autre vie, j'ai aussi fréquenté... les femmes chefs d'entreprise, et je me souviens très bien de ma première visite où j'avais été surprise par le fait de, alors que je voyais beaucoup de monde puisque j'étais dans le commercial, j'avais été surprise de découvrir justement que on avait les mêmes problématiques et dont on ne parle pas forcément avec ses clients, c'est toute la différence.
Ouais. Voilà. C'est vrai.
Et c'est pour ça que je disais, quel que soit le produit, on retrouve les mêmes joies et les mêmes problèmes. Voilà. Michael, un mot pour Sébastien.
Je trouve qu'il fait un métier qui est super intéressant parce que c'est vraiment de la technologie et c'est tourné vers le besoin des clients. La question que je me posais quand il racontait son métier, c'est de savoir s'il pouvait faire des applications qui pourraient être non pas pour les entreprises mais pour les particuliers. Est-ce qu'il y a une niche qui pourrait être là, qui remplacerait Teamwork ou non pas Teamwork mais les systèmes de visio en particulier comme ceux qu'on utilisait pendant le Covid? Est-ce qu'il y a des applications que tu pourrais...
Alors, des applications, il y en a plein. Et effectivement, mon rôle d'intégrateur, tu en parlais tout à l'heure, Hervé, c'est plutôt de proposer des solutions du marché plutôt que de développer des solutions de zéro. C'est pas le même métier, en fait, tout simplement. Le métier du logiciel n'est pas le même métier que celui de l'intégrateur.
Je te rejoins entièrement. Voilà, notre métier... vous me demandiez, Jacqueline, ce que c'était un intégrateur, mais je rebondis dessus. On intègre les solutions créées par les autres.
Ah,
on
oui.
écoute le client,
d'accord,
le besoin, et à nous de rechercher la solution à intégrer directement à notre client.
Mm-hmm.
Voilà. C'est vraiment ça, le métier d'intégrateur.
Ouais. C'est du Lego, en fait.
C'est
on
du
va chercher
Lego.
Les pièces
voilà.
qui vont bien et on fait un truc sympa à la fin. Donc, effectivement, si je prends l'analogie du Lego, pour le particulier, ça pourrait être de faire du home cinéma. De faire des choses de ce type-là. Après, c'est pas le même métier, tu le sais, en B2C par rapport à du B2B. Enfin, tu parles bien du B2C et nous, on parle bien du B2B.
Voilà.
C'est pas la même organisation commerciale, c'est pas le même service. Voilà. Moi, j'ai la chance dans mon métier de travailler avec des grands groupes qui me font déployer 100 salles de réunion sur un seul bâtiment, ce qui est très loin du home cinéma que tu vas faire une fois, qui va être sur mesure aussi. Et donc, c'est pas la même organisation. Mais voilà, j'ai des confrères qui font du home cinéma, si tu veux, je te donnerai des cartes.
Plutôt, c'était par rapport à toi.
Donc aujourd'hui, cette visibilité dont vous avez besoin, vous souhaiteriez la trouver auprès de quelle cible de clients à peu près, par exemple?
Alors justement, je parlais tout à l'heure de grands groupes. C'est peut-être une caricature, mais effectivement. Aujourd'hui, les entreprises qui ont 50 salariés, tu parlais tout à l'heure de l'exemple de
ton client,
une 50 salariés, on a déjà des défis de travailler ensemble. Souvent, au-delà de 10, 12, on dit qu'au-delà de 9 personnes, en fait, il y en a un qui dort dans le fond de la salle. Donc déjà, quand on arrive à 10, 12, à moins d'avoir des jobs bien définis, on potentiellement avoir des frictions. Alors, quand on arrive à 50, c'est sûr. Donc le travailler ensemble à ce moment-là, il est clé. Alors bien sûr, l'espace de travail n'est pas la solution, ce n'est qu'un moyen. Il faut effectivement que les managers soient investis de la mission de faire travailler les gens et qu'ils puissent donner chacun le meilleur d'eux-mêmes dans le poste qu'elle est là. Mais voilà, je contribue malgré tout à ça, en faisant effectivement un espace adapté. Et je travaille du coup beaucoup avec les architectes dont on parlait tout à l'heure, qui adressent plutôt des entreprises plus grosses, généralement. Parce que eux, ils font des espaces de convivialité, ils font des espaces de réunion, ils font des espaces de travail individuel, et ils arrivent à agencer tout ça.
D'accord.
Sans la partie techno. Et donc j'arrive derrière pour dire, bon, voyez ce qu'on fait aujourd'hui en 2026, il y a peut-être 2-3 choses qu'on peut améliorer encore. Voilà.
Et peut-être dans l'événementiel, non?
Alors pareil, l'événementiel est un métier à part.
Oui.
L'événementiel, c'est assez proche du spectacle. Mmh. Même en termes d'horaire de travail, l'événementiel nous fait travailler généralement le week-end,
la nuit.
Alors que moi, je travaille finalement du lundi au vendredi. Donc, c'est à la fois confortable et inconfortable. Hein, voilà. L'événementiel a aussi l'avantage de faire appel à des intermittents du spectacle, ce qui n'est pas mon cas. Donc, l'organisation est encore une fois assez différente. Mais pour le coup, j'ai aussi des confrères dans le spectacle. Donc, ça tombe très bien. Et d'ailleurs, des voisins. On a un bâtiment en face. Donc, on se passe souvent d'ailleurs des relais entre le spectacle, qui peut être sollicité de temps en temps pour faire des installations fixes, permanentes, et moi qui ai souvent des besoins en complément de mes produits et services, de faire un événement ponctuel. Donc on se passe souvent le relais.
Merci Sébastien pour cette vision d'entreprise, hein, créée localement et tournée vers l'humain. Pour vous contacter, que faut-il faire?
Alors tout simplement sur le site internet menta.biz, et au-delà de ça, toutes les coordonnées sont visibles sur Google, donc très facilement.
Très bien, merci beaucoup.
Paris Business.
Évidemment.
Évidemment. Merci Sébastien.
Merci.
Gaëlle, je ne vous ai pas demandé comment peut-on vous joindre?
Sur le site du Paris Business. Sur mon site internet aussi, coassis.fr.
Merci Gaël. Et vous Hervé, Hervé Zitoune.
Notre site internet est aussi grâce au Parisis Business qui nous offre une visibilité très intéressante.
Ouais. Michael, pour vous joindre.
Le site Midas Taverny, bien sûr, le site du Parisis Business, et puis il y a le bouche-à-oreille qui fonctionne aussi, ouais. Aussi très bien. Je veux juste rebondir sur un point que les trois ils ont évoqué, c'est le fait que on se donne de notre personne pour faire nos relations commerciales. Mm-hmm. Les gens ils viennent chez Midas Taverny pas parce qu'ils ont un problème de pneus. Enfin, ça fait c'est une raison. S'ils viennent Midas Taverny, c'est que qu'ils viennent aussi parce qu'ils ont confiance en moi. Mm-hmm. Je crois que c'est pareil pour les trois autres entrepreneurs. Il y a beaucoup de business qui se fait par
c'est votre valeur ajoutée.
Les contacts et puis le fait qu'on a beaucoup d'empathie pour nos clients.
Important.
L'empathie, c'est une valeur qui manque singulièrement actuellement. Et d'avoir de l'empathie pour les gens, c'est vraiment une valeur ajoutée.
C'est primordial.
Parce que les gens, ils ont besoin d'être assurés, d'être stimulés. Donc, ça fait partie aussi de notre rôle en tant qu'entrepreneur.
Je suis complètement d'accord avec vous sur cet aspect de la partie commerciale. Alors voilà, ben on arrive doucement à la fin de cette émission et pour nous accompagner avant la dernière ligne droite de cette émission, Eddy Mitchell, pas de boogie-woogie, ne partez pas, on se retrouve juste après ce titre incontournable.
Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Puis j'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions. Sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Donc pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Tout est dit, mais mes fidèles sont partis. Dieu, je reste seul dans ta maison. J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon? Si ton pape m'a fait perdre l'affaire, j'irai tout droit en enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de midi le sermon du boogie-woogie.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Donc il y a une petite tradition, c'est un tour de table pour votre mot de conclusion. Donc on va commencer avec vous, Sébastien.
Eh bien, le mot de conclusion, effectivement, je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aussi au Parisis Business, l'émulation qui a été faite à travers ce groupe business en particulier, à taille humaine. Pour moi, c'est vraiment l'élément clé décisif pour rentrer dans ce groupe. Et puis, Gaël l'avait dit aussi, on se fait des copains. Donc ça, c'est important. C'est important pour notre équilibre parce que au-delà de notre rôle d'entrepreneur, ben on reste des humains. Quelquefois, on a juste envie d'être entouré et on retrouve ça au Parisien.
Oui. Voilà. Merci à vous.
Merci à vous.
Gaëlle Chavez.
Ben moi, je vais conclure de la même manière qu'il y a 2020, en 2022, parce que de toute façon, c'est mon leitmotiv. C'est on ne lâche rien. Et on ne lâche rien non plus au Parisi Business. On y va tous les mardis matins et on retrouve des entrepreneurs qui sont là aussi, qui sont contents de venir et qui vous exposent leurs soucis, leurs joies, parce qu'il y a aussi des joies quand même dans l'entrepreneuriat, même si les nuits parfois sont courtes. Mais voilà, moi je changerai pas tout de suite de club.
Ah bah ça, heureusement, hein, pour le Parisis Business.
Ouais, non, c'est pas d'actualité du tout.
Donc, merci Gaëlle. Hervé Zitoun.
Un peu pareil, voilà, le plaisir de changer la problématique dans le milieu technique, dans le milieu commercial, clientèle. Donc le plaisir de retrouver nos amis, parce que ça devient des amis,
du
Parisis Business le mardi matin, où on a lâché prise, on a plaisir d'écouter les autres, de se retrouver, d'avoir des invités, parce que je crois que vous êtes venus aussi.
Oui,
donc
absolument.
Voilà, et c'est toujours un plaisir de se retrouver le matin, et on y va avec bonheur. Donc c'est le matin bonheur.
Merci Hervé Zitoun. Julie, à votre conclusion.
Oui, bien sûr. Alors moi, je partage l'avis d'Hervé. C'est vraiment un plaisir de partager tout ça, surtout le mardi matin. J'ai eu l'occasion d'intervenir avec Hervé lors de ma première journée pardon de travail, je vais y arriver. Et j'ai eu la chance effectivement du coup de découvrir tout ce petit monde au Parisi Business. Et il y a une synergie et puis à 7h du matin, c'est vraiment incroyable. Ils sont tous de bonne humeur, tous de bienveillants et c'est vraiment très très bien.
Très bien. Ben merci Julie, merci pour ce témoignage. Michael, le mot de la fin est pour vous.
Quand on est en réunion le matin avec le Parisi, on apprend toujours quelque chose. Donc même si on pense qu'on sait tout parce qu'on a des années d'expérience, il y a toujours une anecdote ou quelque chose qui nous rappelle que on sait pas tout. Donc il faut toujours rester curieux, écouter les autres, voire de temps en temps donner des conseils aux autres avec notre expérience. Et ça c'est assez valorisant pour soi-même et pour le groupe.
Très bien. Alors, je crois savoir que donc le Parisis Business, c'est une association. Hein, nous avait expliqué Johan Rebout. Est-ce que vous avez au niveau de la présidence du bureau, ça tourne régulièrement?
Alors il y a les deux niveaux. Il y a la mandature qui est fixe avec le président, le secrétaire, le trésorier. Donc ça, il y a un vote tous les 5 ans pour renouveler le bureau,
d'accord,
qu'on appelle. Et ensuite, en dessous de ça, il y a un comité qui est élu pour 6 mois pour animer les réunions du matin. Ça tourne régulièrement, forcément, parce que 6 mois, c'est à la fois long, mais en fait assez court. Et donc, il y a les deux systèmes. Un, où il n'y a pas trop de rotation, et le bureau, et les autres, oui, tous les 6 mois.
Très bien. Non, c'était juste une question à laquelle je pensais comme ça, parce que nous ne l'avions pas évoqué encore les fois précédentes. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les 4, tous les 5, hein, pour votre implication au sein du Parisis Business. Et on retiendra que l'économie locale repose avant tout sur des femmes et des hommes qui choisissent de travailler ensemble, de partager et de grandir collectivement. Et c'est exactement ce que représente, je pense, le Parisis Business. Un réseau, oui, mais surtout un levier de confiance et développement dans un monde économique parfois incertain. Merci encore d'avoir été les invités en direct sur IDFM Radio. Merci pour ces super échanges.
Merci.
Voilà, l'économie en direct est terminée. Merci Nicolas pour la technique. Merci à nos fidèles auditrices et auditeurs. Et je sais que vous êtes nombreux de nous accompagner sur IDFM Radio. Vous avez apprécié cette émission, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le site de la radio IDFM98.fr. Vendredi, rendez-vous pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Belle journée, belle semaine. Mais surtout, restez branchés sur notre fréquence parce que beaucoup d'autres émissions vous attendent. À bientôt.